Bonjour frères et sœurs, nous nous trouvons dans une drôle de période ces temps-ci, que ce soit en France ou que ce soit ailleurs. Ce qui est extraordinaire, c'est que avec ce virus qui circule, eh bien, ça a bien changé les habitudes des hommes. Nous ne pouvons pas accuser Dieu d'avoir envoyé cette menace à nos santé, mais il l'a permis et certainement qu'il a un but à accomplir. Mais ce que nous pouvons constater, c'est qu'il a pu, sans toucher, il a pu fermer plus d'églises que le diable n'a jamais pu fermer. Il a fermé en même temps non seulement les églises pour que les chrétiens ne puissent pas se réunir, mais il a aussi fermé les stades, il a fermé les mosquées, il a fermé les boîtes de nuit, les bars, il a tout fermé avec le même geste. Et tout le monde est imposé d'être à la maison. Certains parents se rendent compte peut-être ce que vivent leurs instituteurs avec leurs enfants. Ils se rendent compte des problèmes. Puis d'un autre côté, ça pourrait encourager les familles à se connaître, prendre le temps de se connaître. Il y a toutes sortes de choses, ça dépendra à chacun de comment il prendra la chose et l'acceptera et essayera d'en tirer des leçons pour lui-même, ou de se découvrir lui-même, ou de redécouvrir des situations, des choses dans sa maison. Voilà que le Seigneur nous aide, mais bon, nous ne voulons pas en ce jour mettre l'attention sur ce virus, mais l'attention sur notre Seigneur, et peut-être sur nous-mêmes. Et donc, nous allons continuer notre étude dans ce passage de Romains chapitre 14. Et je vais lire depuis le verset 13 jusqu'au verset 23. Donc, Romains 14, verset 13 jusqu'à la fin du chapitre. Ne dis-nous, nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais que celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. J'ai choisi ce verset qui se trouve au verset 19 comme titre de verset 18 comme titre de notre étude. Servir Dieu d'une manière agréable à Dieu et approuver des hommes. servir Dieu d'une manière agréable à Dieu et approuvée des hommes. Personnellement, je n'aime pas le choix de titre qui est donné à ce passage de Romains 14 que je trouve dans ma Bible, hein, donc, qui dit « précepte de tolérance », parce que je ne vois pas cela comme étant l'enseignement de ce chapitre. Moi, je vois le chapitre plus comme traitant des signes de maturité dans les relations avec ceux d'une autre opinion que la nôtre. Quelle est la manière mature de réagir et de se comporter avec un frère qui a une autre opinion? Hein? Nous, vous savez, dans les informations et tout ça, nous sommes contraints d'écouter les critiques des partis politiques différents qui proposent des réponses différentes et variées pour les mêmes problèmes de société. Et on entend toujours ce comportement de critique et toujours critiquer, démolir l'autre pour s'élever. Mais ce n'est pas la méthode que Dieu nous encourage à utiliser. On ne détruit pas quelqu'un pour pouvoir se justifier. On s'approche de Dieu, hein, pour démontrer ce qui est juste. Les églises sont composées d'êtres humains et donc ne sont pas épargnées de ce comportement et ce genre de calomnie, hein, où on parle en mal des autres chrétiens qui ne voient pas les choses exactement comme nous. Alors la question, c'est comment devons-nous nous comporter, hein, devant ce genre de situation? Laissez-moi revoir la première partie, hein, résumer la première partie du chapitre, parce que c'est une continuité, hein, tout ce chapitre. Et je vois que Paul s'adresse à celui qui est mature dans la foi. Il nous dit au verset 22, il dit « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu ». Il s'adresse à celui qui se considère comme mature et dit « Écoute, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu ». Mais celui-ci, hein, qui croit avoir la foi et qui est mature, eh bien, il se trouve parfois confronté à celui qui est faible dans la foi. Et comment va-t-il réagir? Donc Romains chapitre 14, des versets 2 à 4, il nous dit que celui qui est mature ne méprise pas celui qui, à cause de la faiblesse de sa foi, est encore attaché à certaines règles. Manger ou ne pas manger de la viande, par exemple. Et il nous rassure, il dit, Dieu a le pouvoir de l'affermir. Alors n'essaye pas de faire l'œuvre de Dieu. Dieu a le pouvoir de l'affermir, alors va dans le même sens que Dieu. Dans le Romains 14, versets 6 à 8, il dit que celui qui est mature reconnaisse que même si le frère fait une distinction entre les jours et s'abstient de certaines nourritures, n'oublie pas que celui-ci, qu'il vit et il meurt pour le Seigneur. Donc son intention, ses motivations sont quand même pour le Seigneur dans tout ce qu'il fait. Donc, c'est ça le plus important. Ce n'est pas une question de ce qu'il mange ou ce qu'il ne mange pas, quel jour il préfère et quel jour il honore, mais c'est une question de... Mais remarque, note qu'il, en fait, tout ce qu'il fait, il le fait pour le Seigneur. Et c'est ça, c'est important. Et apprécions cette attitude. Dans Romains 14, versets 9 à 12, il dit que celui qui est mature ne méprise pas le frère qui adhère à une vue différente. Il n'a pas à le juger, parce que c'est devant le tribunal de Christ que chacun rendra des comptes pour son service pour le Seigneur. Donc c'est pas à toi et c'est pas le moment Hein? C'est au moment où nous comparaîtrons, tous les enfants de Dieu comparaîtront devant le tribunal de Christ, non pas pour être jugés pour nos péchés, parce que ça a été réglé sur la croix, mais pour évaluer notre service pour Dieu, pour le Seigneur, pour sa gloire. Et donc il dit, laisse faire Dieu, fais ton travail, t'occupe pas, fais ce qu'il demande de toi, parce que toi-même tu seras jugé pour ton service, et si tu as démoli un frère chez qui le Seigneur est en train de travailler, eh bien, il va te le reprocher. Mais maintenant, à partir du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre, là, il détourne l'attention du frère qui pourrait être faible dans la foi, et il s'intéresse au comportement de celui qui se voit comme mature dans la foi. Ce n'est pas tous ceux qui se voient matures qui le sont. Hein. C'est un problème humain, et on le retrouve aussi parfois dans l'Église. Hein. Donc, c'est plutôt le frère qui est mature va surtout le montrer par son humilité, hein, et non pas par ses connaissances. Paul dit au verset 22, il dit « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve ». Il dit, déjà, tu proposes certaines choses, tu mets en valeur certaines choses, tu condamnes certaines autres choses. Fais attention que tu n'es pas en train d'établir une loi qui va te condamner toi-même. Vous savez, Jésus dit quelque chose dans la même ligne de pensée quand il déclare « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Matthieu chapitre 7, verset 2. C'est après cela que Jésus parle de celui qui voit la paille dans l'œil de son prochain. Hein, tout le monde a entendu cela et tout le monde voit la sagesse de cette parole. Hein, quand Jésus dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ?» Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Jésus ne semble pas le considérer comme mature, hein, celui-là, puisqu'il l'appelle hypocrite. Il dit, tu as établi une règle, tu as des exigences que tu veux imposer sur ton frère, donc basées sur ton opinion, sur tes interprétations, eh bien tu vois, tu découvres des pailles chez ton frère. Mais n'oublie pas que peut-être tu as des poutres dans ta propre vie. Tu as des choses qui devraient t'intéresser, qui sont bien plus sérieuses dans ta propre vie. Et donc il appelle celui qui a ce comportement-là, hein, et ça arrive souvent, et vous l'avez vu, et je l'ai vu, ces gens qui finalement, ils sont tout le temps en train de montrer des points, de noter les défauts et les péchés chez les autres, mais en fait, ils ne font que détourner l'attention parce qu'ils ne veulent pas que les gens voient leurs défauts. Hein. On voit le point noir sur la feuille blanche du voisin, mais on ne voit pas le problème flagrant que voient constamment nos enfants à la maison. Et souvent, lorsque c'est notre problème, eh bien, nous sommes très durs avec les autres. Il dit attention, attention, c'est pas, tu ferais mieux de ne pas parler parce que tu n'es pas mature en te comportant de cette manière, même si tu le crois. Le chrétien mature s'assurera qu'il n'a rien dans sa vie qui pourrait être une pierre d'achoppement ou une occasion de chute, selon le verset 13, pour le frère qui est en, pour qui Christ est mort, verset 15. Et Christ est mort pour lui, et a payé que comme il est mort pour moi. Il dit, ne l'oublie pas. Alors ne permets pas qu'il y ait quelque chose dans ta vie qui fasse trébucher ton frère que Dieu aime autant que toi. Combien de jeunes croyants ont été jetés en pâture aux loups parce qu'ils ne se sont pas conformés au moule de l'Église. On fait distinction entre ceux qui sont faibles dans la foi et ceux qui sont simplement rebelles ou résistants. Hein. Il faut avoir une patience illimitée pour ceux qui sont nouveaux dans la foi, ceux qui sont faibles dans la foi, ceux qui essayent. Et il faut être patient avec eux. Dans leur lutte, et on ne peut pas imposer une vitesse de transformation chez un nouveau converti, sinon vous allez l'obliger à se conformer et à travailler l'extérieur pour être approuvé et négliger la transformation intérieure. N'essayons pas de faire l'œuvre de l'esprit pour l'esprit. Hein. Nous devons être patients avec ceux qui sont faibles dans la foi et ceux qui par leurs attitudes, créent des difficultés, eh bien, il faut les éloigner de la communion de l'Église, parce qu'ils font du tort, ils détruisent l'œuvre de Dieu. N'oublions jamais que le Seigneur a payé le même prix pour ce frère que tu considères comme faible, que le prix qu'il a payé pour toi, qui te considère comme fort. Hein, l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens de Corinthe, dans sa première lettre, chapitre 6, verset 20, il dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Celui qui irait jusqu'à faire trébucher un frère jeune dans la foi n'a pas entendu cette parole du Seigneur. Dans Matthieu 18, verset 6, qui dit « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Le Seigneur dit, écoute, si quelqu'un ose faire trébucher, être un sujet de scandale, qui perturbe la vie de celui qui est jeune dans la foi, qui est un petit dans la foi, il vaudrait mieux que cet homme, eh bien, qu'on le jette à la mer avec une meule attachée au cou. C'est clair, hein, c'est important pour nous de tenir compte comment le Seigneur voit la chose. Paul souligne aussi que cette personne qui se croit plus mature parce qu'elle s'accorde plus de liberté oublie que le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça qu'il nous dit au verset 17. Romains 14, verset 17. Hein, il nous dit, n'oublie pas que ce n'est pas ce que tu manges ou ce que tu ne manges pas qui caractérise le royaume de Dieu, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et donc, celui qui sert Christ, de cette manière, est agréable à Dieu et approuvé des hommes. C'est le verset suivant, le verset 18. Celui qui sert Christ dans la justice, la paix, la joie que produit le Saint-Esprit, offre à Dieu un sacrifice agréable. Le mot « agréable » qu'on trouve dans ce verset 18, c'est le même mot qu'on trouve dans Romains chapitre 12 et verset 2 qui parle de ce sacrifice qui est agréable à Dieu, ce culte qu'on rend à Dieu. Il dit servir Christ, mais dans la joie, la paix, dans la justice, et bien c'est là ce que Dieu recherche. C'est ça le royaume de Dieu. Hein. Et il nous dit, quand il emploie d'être approuvé des hommes, le mot approuvé là, c'est le mot qui était couramment utilisé à l'époque pour dire j'accepte cette monnaie là. Hein, c'est vous faites une affaire et puis la personne dit voilà ce que je vais utiliser pour te payer. Et je dis d'accord. Hein, donc c'est ça, c'est être. Comme les gens acceptent une certaine monnaie, les hommes approuveront ce comportement. Hein. Celui qui est agréable à Dieu, celui qui consiste à être caractérisé par la justice, la paix et la joie. Et il nous dit surtout celle qui est la justice, la paix, la joie qui est produite, qui est issue du Saint-Esprit, hein, que le Seigneur Saint-Esprit produit, hein, non pas que l'être humain essaye d'imiter ou essaye de produire par ses propres forces. En fait, ce que l'on pourrait manger ou ce qu'on ne mange pas, ce qui était une gêne entre les Juifs et les païens n'a pas d'importance en soi. Hein, parce que ceux qui étaient issus du judaïsme, eh bien, ils avaient encore du mal à manger certaines viandes et de consommer certaines choses. Et pour eux, c'était un problème, même s'ils étaient dans le Seigneur. Et pour ceux qui étaient issus du paganisme, ben eux, tout était permis, tout était bon, et ça créait des tensions quand même dans l'Église. Et alors l'un accusait l'autre de ne pas jouir des libertés qu'apporte l'Évangile, et l'autre, il accuse celui issu du paganisme comme étant, s'accordant trop de libertés. Et ça créait quand même une certaine tension. Mais il nous dit, recherchons plutôt ce qui contribue à la paix, à l'édification mutuelle, verset 19. Ils disent, voilà, concentre-toi sur soi, non pas sur ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger, ce que tu peux être est permis, ce qui n'est pas permis, mais concentre-toi sur la paix, ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Hein. Et je vous donne un exemple de personnes qui ont recherché la paix et l'édification mutuelle. Vous savez peut-être que beaucoup de missionnaires américains ne boivent pas de vin. Mais que c'est souvent le vin qui est servi pour la scène en France. Alors j'ai vu deux comportements que je considère comme matures. Dans une situation, l'Église a décidé de servir du jus de raisin pour ne pas exclure les frères américains de la table du Seigneur. Dans une autre situation, le missionnaire a décidé de boire du vin, accordant une plus grande importance à la célébration de la mort de Christ qu'à une coutume personnelle. Dans les deux cas, ce qui a été recherché est la communion, la paix et la joie dans le Seigneur. Et là, nous avons un comportement mature. Parce qu'on donne une plus grande importance à ce que le Seigneur a acquis pour nous à la croix que pour nos préférences personnelles issues de nos arrière-plans, issues de nos expériences, issues de cela. Hein. Donc je l'ai déjà dit, mais la grande difficulté du juif était le fait de consommer des viandes qui était impur selon l'Ancien Testament. Hein, vous vous souvenez peut-être de cette vision de Pierre dans Actes chapitre 10 et les versets 13 et 14, quand un drap descend du ciel et qui est rempli de toutes sortes d'animaux impurs et la voix dit « mange ». Et Pierre, il répond, il dit « mais moi, j'ai jamais mangé des saletés pareilles, hein. Jamais ». Et il le dit une fois et deux fois, il dit, et chaque fois, le Seigneur lui dit « ne considère pas impur ce que j'ai déclaré pur ». Et en fait, il dit « tu as peut-être des préférences, mais donne plus d'importance au fait que moi, je veux unir dans l'Église de Christ » et les juifs et les païens, sans faire de distinction. Pour moi, c'est un but plus grand que préférences issues de ton éducation pour considérer comme certaines choses comme étant impures. Et c'est un exemple, mais bon, nous devons regarder dans nos vies, voir si nous-mêmes, nous n'avons pas certaines choses qui finalement deviennent des sources de division ou de mépris ou de finalement on fréquente moins cette personne, on n'aime pas trop être avec cette personne, alors que c'est un frère dans le Seigneur, c'est une sœur dans le Seigneur, mais parce qu'ils ont, de par leurs origines, de par leur culture, de par leur arrière-plan religieux, celui qui est issu de l'islam et qui n'a jamais mangé de porc, ne lui impose pas à manger du porc, par exemple, pour qu'il y ait communion. Si tu sais qu'il est là et qu'il sera gêné, eh bien, mets du poulet sur la table. Comme ça, rien ne sera un obstacle à ce que la communion soit complète et qu'il ne lui sera pas gêné. Pour d'autres, ça peut être d'autres choses, hein, qu'ils ont du mal à manger. Et, écoute, donc c'est le respect. Ce qu'on veut surtout, c'est travailler ces valeurs que le Seigneur considère comme étant les plus importantes. La paix, la justice, la joie, hein, ne fait rien qui puisse perturber ou diminuer la joie que nous pouvons avoir ensemble parce que nous sommes dans le Seigneur. Le juif, lui, il avait certaines viandes qu'il considérait comme impures de par leur nature, de par la manière dont elles sont préparées. Alors que, d'un autre côté, comme dit Paul, hein, dans 1 Corinthiens 10, 25, il mangeait de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Donc c'était deux manières de voir qui étaient souvent en conflit. Le frère mature, connaissant ce problème et ne voulant pas détruire l'œuvre de Dieu, comme il le dit dans verset 20, va s'abstenir de ce qui peut être pour un frère une occasion de chute. Verset 21. Il va garder pour lui sa liberté et cela devant Dieu. Hein, c'est ça qu'il nous dit au verset 22. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Hein, voilà, tu d'accord, c'est ta conviction, c'est, Dieu le sait, c'est dans toi tu le sais, mais maintenant, parce que tu veux favoriser la communion avec le frère, parce que tu ne veux pas mettre un obstacle à sa croissance et sa capacité de t'entendre, l'enseigner, l'encourager. Alors, écoute, mets de côté tes convictions personnelles afin d'aller dans le sens de l'édification et la construction de l'Église. Et Paul termine ce passage en disant que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Hein, c'est verset 23, dernière partie. J'ai déjà entendu ce verset être utilisé de toutes sortes de manières, mais curieusement, le mot traduit par « conviction » est le plus souvent traduit par « foi » dans l'épître de Paul aux Romains. Et donc, quand on met conviction là, oui, ça a le sens. Quand j'ai une foi ferme dans quelque chose, j'ai la conviction, mais c'est quand même le mot foi hein, qui est utilisé. Et quand il dit et le produit, ça a l'idée d'être plutôt d'être issu d'eux. Hein. Donc, si nous comprenons ces mots-là, on pourrait dire tout ce qui n'est pas issu de la foi en la parole de Dieu, où le produit de notre confiance en Dieu est en fait un péché. Et je vous rappelle le sens du mot péché hein, dans le grec, ça veut dire de manquer le but, de rater la cible. Hein. Donc il dit, tout ce qui n'est pas selon l'esprit de l'Évangile que nous avons entendu et cru, eh bien, c'est à côté de la plaque dans le domaine spirituel. Quand on pense que Dieu a aimé le pécheur au point de mourir, hein, de donner son fils qui est mort sur la croix pour porter le péché et pour faire de tous ceux qui croient, tous ceux qui entendent ce message et en qui l'Esprit de Dieu convainc de péché, de justice et de jugement et qu'il veut rassembler tout cela en un seul corps. Eh bien, ne commence pas à aller trouver des petits trucs et des petites différences pour écarter, éloigner, ralentir l'œuvre de Dieu. Et puis, l'attention est plus sur le petit problème que sur la personne. Hein. Ce n'est pas une question d'effacer ce qui nous distingue dans le but de nous rapprocher les uns des autres. Mais dans nos différences, de nous rapprocher de la pensée de Dieu et de rechercher le bien de ceux qui sont ses enfants. Regarde au Seigneur et sois exigeant avec celui qui te regarde dans le miroir. Il y a de quoi t'occuper toute ta vie, hein. L'erreur n'est pas toujours chez l'autre, mais la réponse est toujours dans la parole de Dieu. Ne prenons pas les pensées de notre cerveau pour des inspirations de l'Esprit de Dieu. C'est une faute grave à éviter. Vérifions toujours que c'est bien ce que la Bible enseigne avant d'ouvrir la bouche. Hein? Donc, pour remettre les choses à leur place, oui, nous avons. Parce que nous venons de cultures différentes, parce que nous venons de pays différents, parce que nous avons des langages différents, parce que nous venons de familles différentes, venons de couches sociales différentes, parce que nos études ne sont pas les mêmes, parce que nous avons un arrière-plan religieux ou nous n'avons pas d'arrière-plan religieux. Tout ça influe sur le nouveau croyant et il est en voie de transformation. Et le Seigneur est en train de faire une œuvre. Ne te laisse pas perturber et ne le perturbe pas avec tes idées. Regarde d'abord, évalue si tu es bien dans la pensée du Seigneur qui est mort pour lui, comme il est mort pour toi. Il veut le sauver comme il a voulu te sauver. Il veut sa croissance comme il veut ta croissance. L'Esprit de Dieu est en lui comme il est en toi. Donc, et Christ s'occupe actuellement à construire son Église. Il dit, je bâtirai mon Église. Donc, voilà, ce sont des pierres qui sont précieuses au Seigneur et qu'il veut utiliser dans son Église. Alors ne méprise pas ces pierres, ne méprise pas, permets au Seigneur, donne-lui le temps de tailler la pierre pour qu'elle aille bien dans sa place, comme il l'a fait avec toi et comme il est encore en train de faire avec toi, certainement. Et si tu as si c'est un problème à ce niveau-là, c'est que tu as besoin qu'il la taille encore. Hein, donc, que le Seigneur nous aide et nous encourage, et dans cet ouvrage de Romains qui nous parle de l'Évangile, que Dieu a mis en place pour nous délivrer, eh bien, il prend tout un chapitre pour traiter cette question, parce que c'était sérieux, et l'Église primitive en souffrait énormément de cette... Mais aujourd'hui, pareillement, hein, et dans nos églises, on a des tensions, et donc après, on a des églises ethniques, on a des églises de certaines cultures, de certains niveaux sociaux, et on a toutes sortes de choses, alors que vraiment, le Seigneur, il veut qu'on soit, il y a un brassage de tous. Et c'est là où ce sera un témoignage à la gloire de Dieu. Hein? Et donc, je reviens à ce verset tout au début, hein, que j'ai mentionné. Il dit, celui qui sert Christ de cette manière, hein, car le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Et c'est ce que nous devons rechercher. Et dans cette période où beaucoup de choses sont remises en question à cause du coronavirus et tout cela, ben c'est un moment de réflexion pour nous, de nous concentrer, de nous regarder. On a le temps maintenant, hein, de lire la Bible, on a le temps de réfléchir et préparons-nous. Parce que je veux croire que tout ce chamboulement que nous avons dans le monde n'est pas gratuit. Dieu a une intention. Et même si un grand nombre de gens ne vont pas se laisser influencer par cela pour se tourner vers Dieu, mais je suis confiant que d'autres se tourneront vers Dieu et se tourneront peut-être vers nous, et sommes-nous en état pour les aider et les recevoir. Alors, prenons ce temps pour une préparation pour ce à quoi le Seigneur, ce qu'il prépare pour nous dans l'Église, dans notre Église, dans vos Églises, et que nous ayons une attitude que le monde va vouloir trouver, hein, ce comportement, cet esprit, hein, où nous, vraiment, c'est un service qui sera agréable et à Dieu et accepté des hommes. Que le Seigneur nous aide. Je vais prier. Père Céleste, nous te remercions parce que même en cette période où beaucoup se vivent dans la crainte et l'angoisse de ce virus, eh bien, nous pouvons lever les yeux vers toi et plonger nos regards dans ta parole et regarder dans le miroir et voir peut-être pas seulement une paille dans notre œil, mais voir la poutre qui est dans notre œil. Et que nous puissions l'extraire afin d'être prêts pour te servir quand cette tempête sera passée. Et lorsque des âmes ou reviendront à toi ou d'autres viendront vers toi pour la première fois, que nous soyons en état pour les recevoir, afin que tu puisses te servir de nous, et que eux, en nous regardant, voient que notre vie est agréable et à Dieu, et qu'elle est approuvée par les hommes. Seigneur, fais ton œuvre en nous, en chacun de nos cœurs. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.